Comment on meurt, chapitre 3. Monsieur Rousseau s'est marié à 20 ans avec une orpheline, Adèle Lemercier, qui en avait 18. À eux deux, ils possédaient 70 francs le soir de leur entrée en ménage. Ils ont d'abord vendu du papier à lettres et des bâtons de cire à cacheter sous une porte cochère. Puis, ils ont loué un trou, une boutique, large comme la main, dans laquelle ils sont restés 10 ans à élargir petit à petit leur commerce. Maintenant, ils possèdent un magasin de papeterie, rue de Clichy, qui vaut bien une 50 000 francs. Adèle n'est pas d'une forte santé. Elle a toujours toussé un peu. L'air enfermé de la boutique, l'immobilité du comptoir, ne lui valent rien. Un médecin qu'ils ont consulté lui a recommandé le repos et les promenades par les beaux temps. Mais ce sont là des ordonnances qu'on ne peut suivre quand on veut vite amasser de petites rentes pour les manger en paix. Adèle dit qu'elle se reposera, qu'elle se promènera plus tard, lorsqu'ils auront vendu et qu'ils se seront retirés en province. Monsieur Rousseau, lui, s'inquiète bien les jours où il la voit pâle, avec des taches rouges sur les joues. Seulement, il a sa papeterie qui l'absorbe. Il ne saurait être sans cesse derrière elle, à l'empêcher de commettre des imprudences. Pendant des semaines, il ne trouve pas une minute pour lui parler de sa santé. Puis, s'il vient à entendre sa petite toux sèche, il se fâche. Il la force à mettre son châle et à faire un tour avec lui aux Champs-Élysées. Mais elle rentre plus fatiguée, toussant davantage. Les tracas du commerce reprennent M. Rousseau. La maladie est de nouveau oubliée, jusqu'à une nouvelle crise. C'est ainsi dans le commerce. On y meurt sans avoir le temps de se soigner. Un jour, M. Rousseau prend le médecin à part et lui demande franchement si sa femme est en danger. Le médecin commence par dire qu'on doit compter sur la nature, qu'il a vu des gens beaucoup plus malades se tirer d'affaire. Puis, pressé de questions, il confesse que Madame Rousseau est phtisique, même à un degré assez avancé. Le mari est devenu blême en entendant cet aveu. Il aime Adèle pour le long effort qu'ils ont fait ensemble avant de manger du pain blanc tous les jours. Il n'a pas seulement en elle une femme, il a aussi un associé dont il connaît l'activité et l'intelligence. S'il la perd, il sera frappé à la fois dans son affection et dans son commerce. Cependant, il lui faut du courage, il ne peut fermer sa boutique pour pleurer à son aise. Alors, il ne laisse rien voir, il tâche de ne pas effrayer Adèle en lui montrant des yeux rouges. Il reprend son train-train. Au bout d'un mois, quand il pense à ces choses tristes, il finit par se persuader que les médecins se trompent souvent. Sa femme n'a pas l'air plus malade. Et il en arrive à la voir mourir lentement, sans trop souffrir lui-même, distrait par ses occupations, s'attendant à une catastrophe, mais la reculant dans un avenir illimité. Adèle répète parfois « Ah, quand nous serons à la campagne, tu verras comme je me porterai. Mon Dieu, il n'y a plus que 8 ans à attendre, ça passera vite. » Et M. Rousseau ne songe pas qu'il pourrait se retirer tout de suite avec de plus petites économies. Adèle ne voudrait pas d'abord. Quand on s'est fixé un chiffre, on doit l'atteindre. Pourtant, 2 fois déjà, Madame Rousseau a dû prendre le lit. Elle s'est relevée et redescendue au comptoir. Les voisins disent « Voilà une petite femme qui n'ira pas loin. » Et ils ne se trompent pas. Juste au moment de l'inventaire, elle reprend le lit une 3e fois. Le médecin vient le matin, cause avec elle, signe une ordonnance d'une main distraite. Monsieur Rousseau, prévenu, sait que le fatal dénouement approche. Mais l'inventaire le tient en bas, dans la boutique, et c'est à peine s'il peut s'échapper 5 minutes de temps à autre. Il monte quand le médecin est là. Puis il s'en va, avec lui, et reparaît un instant avant le déjeuner. Il se couche à 11 heures au fond d'un cabinet où il a fait mettre un lit de sangle. C'est la bonne, Françoise, qui soigne la malade. Une terrible fille, cette Françoise, une auvergnate aux grosses mains brutales, d'une politesse et d'une propreté douteuses. Elle bouscule la mourante, lui apporte ses potions d'un air maussade, fait un bruit intolérable en balayant la chambre, qu'elle laisse dans un grand désordre. Des fioles toutes poissées traînent sur la commode. Les cuvettes ne sont jamais lavées, les torchons pendent au dossier des chaises. On ne sait plus où mettre le pied, tant le carreau est encombré. Madame Rousseau, cependant, ne se plaint pas et se contente de donner des coups de poing contre le mur lorsqu'elle appelle la bonne et que celle-ci ne veut pas répondre. Françoise n'a pas qu'à la soigner. Il faut en bas qu'elle tienne la boutique propre, qu'elle fasse la cuisine pour le patron et les employés, sans compter les courses dans le quartier et les autres besognes imprévues. Aussi, madame ne peut-elle exiger de l'avoir toujours auprès d'elle. On la soigne quand on a le temps. D'ailleurs, même dans son lit, Adèle s'occupe de son commerce. Elle suit la vente, demande chaque soir comment ça marche. L'inventaire l'inquiète. Dès que son mari peut monter quelques minutes, elle ne lui parle jamais de sa santé. Elle le questionne uniquement sur les bénéfices probables. C'est un grand chagrin pour elle d'apprendre que l'année est médiocre, 1 400 francs de moins que l'année précédente. Quand la fièvre la brûle, elle se souvient encore sur l'oreiller des commandes de la dernière semaine. Elle débrouille des comptes, elle dirige la maison. Et c'est elle qui renvoie son mari s'il s'oublie dans la chambre. Ça ne la guérit pas qu'il soit là, et ça compromet les affaires. Elle est sûre que les commis regardent passer le monde. Elle lui répète « Descends, mon ami, je n'ai besoin de rien, je t'assure. Et n'oublie pas de t'approvisionner de registres, parce que voilà la rentrée des classes et que nous en manquerions. » Longtemps, elle s'abuse sur son véritable état. Elle espère toujours se lever le lendemain et reprendre sa place au comptoir. Elle fait même des projets. Si elle peut sortir bientôt, ils iront passer un dimanche à Saint-Cloud. Jamais elle n'a eu un si gros désir de voir des arbres. Puis, tout d'un coup, un matin, elle devient grave. Dans la nuit, toute seule, les yeux ouverts, elle a compris qu'elle allait mourir. Elle ne dit rien jusqu'au soir, réfléchit, les regards au plafond. Et le soir, elle retient son mari, elle cause tranquillement, comme si elle lui soumettait une facture. « Écoute, dit-elle, tu iras chercher demain un notaire. Il y en a un près d'ici, rue Saint-Lazare. »« Pourquoi un notaire ? » s'écrie Monsieur Rousseau. « Nous n'en sommes pas là, bien sûr. » Mais elle reprend de son air calme et raisonnable. « Possible. Seulement, cela me tranquillisera de savoir nos affaires en ordre. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté, quand nous ne possédions rien ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui que nous avons gagné quelques sous, je ne veux pas que ma famille puisse venir te dépouiller. Ma sœur Agathe n'est pas si gentille pour que je lui laisse quelque chose. J'aimerais mieux tout emporter avec moi. » Et elle s'entête. Il faut que son mari aille le lendemain chercher le notaire. Elle questionne ce dernier longuement, désirant que les précautions soient bien prises et qu'il n'y ait pas de contestation. Quand le testament est fait et que le notaire est parti, elle s'allonge en murmurant « Maintenant, je mourrai contente. J'avais bien gagné d'aller à la campagne. Je ne peux pas dire que je ne regrette pas la campagne. Mais tu iras, toi. Promets-moi de te retirer dans l'endroit que nous avions choisi. Tu sais, le village où ta mère est née, près de Melun, ça me fera plaisir. » Monsieur Rousseau pleure à chaudes larmes. Elle le console, lui donne de bons conseils. S'il s'ennuie tout seul, il aura raison de se remarier. Seulement, il devra choisir une femme un peu âgée, parce que les jeunes filles qui épousent des veufs épousent leur argent. Et elle lui indique une dame de leur connaissance, avec laquelle elle serait heureuse de le savoir. Puis, la nuit même, elle a une agonie affreuse. Elle étouffe, demande de l'air. Françoise s'est endormie sur une chaise. Monsieur Rousseau, debout au chevet du lit, ne peut que prendre la main de la mourante et la serrer pour lui dire qu'il est là, qu'il ne la quitte pas. Le matin, tout d'un coup, elle éprouve un grand calme. Elle est très blanche, les yeux fermés, respirant lentement. Son mari croit pouvoir descendre avec Françoise pour ouvrir la boutique. Quand il remonte, il trouve sa femme toujours très blanche, raidie dans la même attitude. Seulement, ses yeux se sont ouverts. Elle est morte. Depuis longtemps, M. Rousseau s'attendait à la perdre. Il ne pleure pas. Il est simplement écrasé de lassitude. Il redescend, regarde Françoise remettre les volets de la boutique. Et lui-même, il écrit sur une feuille de papier « Fermé pour cause de décès ». Puis, il colle cette feuille sur le volet du milieu avec 4 pains à cacheter. En haut, toute la matinée est employée à nettoyer et à disposer la chambre. Françoise passe un torchon par terre, fait disparaître les fioles, met près de la morte un cierge allumé et une tasse d'eau bénite. Car on attend la sœur d'Adèle, cette Agathe qui a une langue de serpent. Et la bonne ne veut pas qu'on puisse l'accuser de mal tenir le ménage. Monsieur Rousseau a envoyé un commis remplir les formalités nécessaires. Lui se rend à l'église et discute longuement le tarif des convois. Ce n'est pas parce qu'il a du chagrin qu'on doit le voler. Il aimait bien sa femme, et si elle peut encore le voir, il est certain qu'il lui fait plaisir en marchant dans les curés et les employés des pompes funèbres. Cependant, il veut, pour le quartier, que l'enterrement soit convenable. Enfin, il tombe d'accord. Il donnera 160 francs à l'église et 300 francs aux pompes funèbres. Il estime qu'avec les petits frais, il n'en sera pas quitte à moins de 500 francs. Quand M. Rousseau rentre chez lui, il aperçoit Agathe, sa belle-sœur, installée près de la morte. Agathe est une grande personne sèche, aux yeux rouges, aux lèvres bleuâtres et minces. Depuis 3 ans, le ménage était brouillé avec elle et ne la voyait plus. Elle se lève cérémonieusement, puis embrasse son beau-frère. Devant la mort, toutes les querelles finissent. Monsieur Rousseau, qui n'a pu pleurer le matin, sanglote alors en retrouvant sa pauvre femme blanche et raide, le nez pincé davantage, la face si diminuée qu'il la reconnaît à peine. Agathe reste les yeux secs. Elle a pris le meilleur fauteuil, elle promène lentement ses regards dans la chambre, comme si elle dressait un inventaire minutieux des meubles qui la garnissent. Jusque-là, elle n'a pas soulevé la question des intérêts, mais il est visible qu'elle est très anxieuse et qu'elle doit se demander s'il existe un testament. Le matin des obsèques, au moment de la mise en bière, il arrive que les pompes funèbres se sont trompées et ont envoyé un cercueil trop court. Les croque-morts doivent aller en chercher un autre. Cependant, le corbillard attend devant la porte, le quartier est en révolution. C'est là une nouvelle torture pour M. Rousseau. Si encore ça ressuscitait sa femme de la garder si longtemps. Enfin, on descend la pauvre Madame Rousseau, et le cercueil ne reste exposé que 10 minutes en bas, sous la porte, tendue de noir. Une centaine de personnes attendent dans la rue, des commerçants du quartier, les locataires de la maison, les amis du ménage, quelques ouvriers en paletot. Le cortège part, M. Rousseau conduit le deuil. Et, sur le passage du convoi, les voisines font un signe de croix rapide en parlant à voix basse. « C'est la papetière, n'est-ce pas ? Cette petite femme si jaune, qui n'avait plus que la peau et les os. Ah bien, elle sera mieux dans la terre. Ce que c'est que de nous pourtant ? Des commerçants très à leur aise, qui travaillaient pour prendre du plaisir sur leurs vieux jours. Elle va en prendre maintenant du plaisir, la papetière. » et les voisines trouvent Monsieur Rousseau très bien, parce qu'il marche derrière le corbillard, tête nue, tout seul, pâle, et ses rares cheveux envolés dans le vent. En 40 minutes, à l'église, les prêtres bâclent la cérémonie. Agathe, qui s'est assise au premier rang, semble compter les cierges allumés. Sans doute, elle pense que son beau-frère aurait pu y mettre moins d'ostentation. Car enfin, s'il n'y a pas de testament et qu'elle hérite de la moitié de la fortune, elle devra payer sa part du convoi. Les prêtres disent une dernière oraison, le goupillon passe de main en main et l'on sort. Presque tout le monde s'en va. On a fait avancer les 3 voitures de deuil dans lesquelles des dames sont montées. Derrière le corbillard, il ne reste que Monsieur Rousseau, toujours tête nue, et une 30aine de personnes, les amis qui n'osent s'esquiver. Le corbillard est simplement orné d'une draperie noire à franges blanches. Les passants se découvrent et filent vite. Comme Monsieur Rousseau n'a pas de tombeau de famille, il a simplement pris une concession de 5 ans au cimetière Montmartre, en se promettant d'acheter plus tard une concession à perpétuité et d'exhumer sa femme pour l'installer définitivement chez elle. Le corbillard s'arrête au bout d'une allée et l'on porte à bras le cercueil parmi des tombes basses jusqu'à une fosse creusée dans la terre molle. Les assistants piétinent, silencieux. Puis, le prêtre se retire après avoir mâché 20 paroles entre ses dents. De tous côtés s'étendent des petits jardins fermés de grilles, des sépultures garnies de giroflées et d'arbres verts. Les pierres blanches, au milieu de ces verdures, semblent toutes neuves et toutes gaies. Monsieur Rousseau est très frappé par la vue d'un monument, une colonne mince surmontée de l'urne symbolique. Le matin, un marbrier est venu le tourmenter avec des plans, et il songe que, lorsqu'il achètera une concession à perpétuité, il fera mettre, sur la tombe de sa femme, une colonne pareille avec ce joli vase. Cependant, Agathe l'emmène, et de retour à la boutique, elle se décide enfin à parler intérêt. Quand elle apprend qu'il existe un testament, elle se lève toute droite, elle s'en va, en faisant claquer la porte. Jamais elle ne remettra les pieds dans cette baraque. Monsieur Rousseau a toujours, par moments, un gros chagrin qui l'étrangle. Mais ce qui le rend bête, surtout, la tête perdue et les membres inquiets, c'est que le magasin soit fermé un jour de semaine.